Bonjour à vous tous qui êtes à l'écoute de La Voix de l'Amérique. Bienvenue dans ce bulletin qui vous est présenté par Nanit Talani depuis Washington, la capitale américaine. Il est 10h ici, 17h à Nairobi et Mombasa au Kenya. Le ministère français des armées a refusé ce mardi toute bavure au Mali et émis de nombreuses réserves sur une enquête des Nations Unies concluant qu'une frappe aérienne française avait tué 19 civils réunis pour un mariage, selon un communiqué transmis à l'AFP. Le ministère maintient avec constance et réaffirme avec force que le 3 janvier, les forces armées françaises ont effectué une frappe aérienne ciblant un groupe armé terroriste identifié comme tel près de Bounti dans le centre, souligne-t-il. Le gouvernement français émet de nombreuses réserves quant à la méthodologie retenue et ne peut considérer que ce rapport apporte une quelconque preuve contredisant les faits tels que décrits par les forces armées françaises. Le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, s'est rendu au Qatar avec l'espoir d'attirer des investissements massifs vers son pays, le plus grand d'Afrique subsaharienne, à l'immense potentiel agricole et hydroélectrique. Le président congolais a été reçu lundi par l'émir du Qatar, Cheikh Tamim Ben Hamid Al Thani, a rapporté la présidence congolaise. De nombreux accords et protocoles d'entente ont été signés entre la RDC et le Qatar, notamment dans le domaine de la coopération économique, commerciale et technique, ainsi que dans celui de la coopération aéronautique et maritime, selon le compte Twitter de la présidence congolaise. Le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi avertit que la région entourant l'Égypte connaîtrait une instabilité inimaginable si le barrage construit par l'Éthiopie sur le Nil menaçait une goutte d'eau égyptienne. Personne ne doit s'imaginer qu'il est loin de la portée de l'Égypte, a ajouté M. Sissi, en soulignant que la part des eaux du Nil revenant à l'Égypte était une ligne rouge. L'Égypte et le Soudan ont exhorté l'Éthiopie à ne pas effectuer le remplissage avant la signature d'un accord. Le sujet a fait l'objet d'environ une décennie de discussions sans qu'aucun accord ne soit trouvé. Au cours des prochaines semaines, il y aura des négociations et j'espère que nous allons parvenir à un accord juridique contraignant, a encore espéré M. Sissi. En Algérie, une foule d'étudiants, d'enseignants et de sympathisants a défilé à Alger, comme chaque mardi, pour réclamer la libération des détenus d'opinion et réaffirmer la pluralité et l'unité du mouvement pro-démocratie du Hirak face au risque de division. Libérer les détenus, libérer Miloud Ben Rouan, un étudiant emprisonné à Biskra, depuis octobre 2020, ont scandé les manifestants en tapant dans les mains. Certains brandissaient des portraits des prisonniers. Malgré la libération récente d'une quarantaine de détenus d'opinion, une trentaine de personnes sont toujours en prison pour des faits liés au Hirak et ou aux libertés individuelles, selon le Comité national pour la libération des détenus, une ONG de soutien. Hors de l'Afrique, ici aux États-Unis, le président Joe Biden a annoncé ses premières nominations pour des postes de juges fédéraux. Il met l'accent sur la diversité. Sur les 11 nominations, on compte 3 femmes afro-américaines pour des postes de cour d'appel. La juge afro-américaine Tedonji Brown-Jackson, 50 ans, est nommée à la cour d'appel de Washington. Si elle est confirmée par le Sénat, elle succédera à Merrick Garland, devenu ministre de la Justice. Ces nominations représentent la large diversité d'origine, d'expérience et de perspective qui fait la force de notre pays, a souligné Joe Biden dans un communiqué. Selon la Constitution américaine, le président nomme à vie les juges de la Cour suprême et les juges fédéraux dans les tribunaux d'appel ou de première instance. Il revient ensuite au Sénat de les confirmer. En Italie, soupçonné d'avoir falsifié les chiffres sur le coronavirus en Sicile, le responsable de la santé de cette région, qui fait l'objet d'une enquête, a présenté aujourd'hui sa démission tout en niant toute faute. C'est sur la base de ces chiffres transmis quotidiennement par les régions que le gouvernement central décide des restrictions devant être mises en vigueur au niveau de chaque région pour endiguer des contagions au COVID-19. Transmettre de fausses données aurait pu ainsi permettre d'éviter de nouvelles mesures de restriction. Arrangeons un peu les données sur les morts sur plusieurs jours, aurait déclaré Ruggero Raza à la dirigeante du département régional des activités sanitaires, Maria Letizia Di Liberti, selon des écoutes téléphoniques citées par un quotidien. C'est la fin de ce bulletin. Merci de votre fidélité à La Voix de l'Amérique.